les amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans sa spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en 5 épisodes une question juridique essentielle. Aujourd'hui, M. Bertrand Dumaret, conseiller d'État, président du think tank Fides, Forum sur les institutions, le droit, l'économie et la société, et chercheur associé au CRDP de l'Université Paris-Nanterre, dessine les contours de la révolution copernicienne du droit public de la régulation économique. Cinquième épisode, l'évaluation de la mise en œuvre de la régulation, le cas des États-Unis.
Bonjour chers auditeurs d'Amicus Radio, je suis ravi d'intervenir aujourd'hui pour ce dernier épisode de notre série sur le thème du droit public de la régulation économique. Et surtout, je suis très honoré et très heureux de recevoir John Drobak, professeur de droit et d'économie à la faculté de droit de l'Université Washington de Saint-Louis, Missouri. John est notamment le co-auteur d'une série d'articles avec Douglas North, qui a reçu le prix Nobel d'économie au début des années 90. Il va nous présenter aujourd'hui son regard, sa perception de l'évaluation de la régulation et de la libéralisation des services publics aux États-Unis. Je suis très heureux d'être avec vous, professeur John Drobak. J'ai l'impression que vous êtes trop modeste en mentionnant vos titres, car vous avez écrit une série d'articles avec Douglas North, prix Nobel d'économie, au début des années 90. Je voudrais vous poser quelques questions concernant votre travail et votre expérience dans le champ de la régulation de la concurrence, à l'intérieur du service public et à l'intérieur de la sphère publique.
Competition within the public utility and the public sphere. So
ma première question est très générale. Comment décririez-vous l'influence des institutions et du droit sur l'économie?
L'économie n'existe pas sans cadre. Comme dans un cours d'introduction à l'économie à la fac, où on est dans un monde parfait décrit sur un tableau noir. L'économie évolue toujours dans un ensemble de lois, de normes, de codes et de cultures. Au départ, quand les Anglais ont commencé à faire de la recherche en économie, ils étudiaient en même temps les sciences politiques, ce qu'ils appelaient l'économie politique. Je pense que c'est la meilleure façon d'approcher ce sujet, car toute problématique économique est influencée d'une manière ou d'une autre par le gouvernement, la politique ou par la volonté du peuple.
Dans vos derniers articles, vous décrivez de manière détaillée le niveau de concurrence aux États-Unis. Je me demandais si la concurrence est vraiment plus intense aujourd'hui que, par exemple, avant l'arrivée au pouvoir de Ronald Reagan.
Je pense que la concurrence est beaucoup moins intense aujourd'hui. Le marché américain est beaucoup moins compétitif qu'il y a 30 ans, et ce pour de nombreuses raison. La technologie est un facteur important. Mais aussi, vu les caractéristiques de notre économie, la taille des entreprises est déterminante. On a assisté à la création d'entreprises immenses dans des pans entiers de l'économie, qui avaient tendance à dominer leurs secteurs économiques respectifs, ce qui rend ces derniers moins compétitifs. On a assisté à un changement en matière de politique antitrust à partir des années Reagan, ce qui a permis à des mastodontes de prendre le contrôle de pans entiers de l'économie. Je suis convaincu que les États-Unis ont un système beaucoup moins compétitif que par le passé.
Alors, justement, cette politique économique des années Reagan, que nous appelons en Europe la dérégulation, a été appliquée dans les industries et les services publics aux États-Unis à partir des années 80. Comment évaluez-vous ces effets?
Comme très partagé. Dans certains secteurs, ça a très bien marché. Par exemple, le secteur de l'électricité en a beaucoup bénéficié. Les grandes entreprises électriques intégrées se sont transformées en plusieurs entreprises entreprises, pour les unes de production, notamment avec de nouvelles turbines à gaz, pour les autres de transport à très haute tension, et pour les dernières de distribution locale, capables d'opérer à la fois dans des zones urbaines et rurales. L'électricité peut désormais être déplacée vers d'autres secteurs industriels. Notre pays est immense, mais nous sommes capables de déplacer de l'électricité d'une région à une autre et même de l'importer du Canada. Cette révolution technologique a été notamment possible grâce à la dérégulation. Mais ça n'a pas été le cas pour d'autres industries. La dérégulation a entraîné des démembrements d'entreprises, des banqueroutes, des situations de faillite pour nombre de sociétés. Avec le temps, de nombreux secteurs économiques se sont concentrés entre les mains de quelques entreprises. C'est le cas pour les télécommunications, les compagnies aériennes, pour le fret ferroviaire. Au final, ces grandes entreprises se retrouvent dans des situations d'oligopole. Ces secteurs ne sont donc plus compétitifs et imposent des prix trop élevés à leurs clients, ce qu'ils ne feraient pas s'ils étaient encadrés par des réglementations. Il faut se souvenir que les politiques de dérégulation aux États-Unis étaient en réalité des transferts de richesses des employés aux consommateurs. Les employés en ont beaucoup pâti. Les salaires ont baissé, beaucoup d'emplois à temps plein ont été remplacés par des temps partiels. Les travailleurs ont donc souffert de la dérégulation. Les consommateurs, eux, en ont bénéficié. Une sorte d'arbitrage s'est donc opéré, car il faut des travailleurs qui aient de l'argent afin qu'ils le dépensent en tant que consommateurs pour que l'économie continue de tourner. Ça a donc des avantages et des inconvénients. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais ajouter que la dérégulation ne s'est pas imposée aux États-Unis parce que les gens pensaient que la compétition était la panacée. Elle a en fait commencé sous Gerald Ford au milieu des années 70, quand on était inquiet à cause de l'inflation. Les États-Unis subissaient une inflation rapide. J'ai acheté une maison au début des années 80 avec un taux d'intérêt de 16,25%. C'était très haut. Le gouvernement fédéral essayait de ralentir cette augmentation des prix. On pensait qu'en dérégulant certains secteurs, les prix baisseraient. À l'origine, c'était donc un argument macroéconomique pour soutenir l'économie. Mais ensuite, beaucoup ont commencé à préférer la compétition à la régulation. Voilà comment on en est arrivé là.
Votre analyse de la dérégulation est donc très partagée, très nuancée. Quels facteurs portent, d'après vous, la responsabilité ? Est-ce l'architecture de la dérégulation elle-même, ou bien la faute réside-t-elle dans son application, ou la sociologie des régulateurs, leur comportement, le contexte économique général, ou autre chose ?
Eh bien d'abord, je dirais, comme vous le savez sûrement, que c'est très difficile de lire l'avenir. Ils ont choisi la trajectoire qui leur semblait la meilleure pour l'économie avec les informations qu'ils avaient en leur possession. Mais le problème, c'est justement qu'ils ne pouvaient plus changer de direction. Prenons l'exemple des compagnies aériennes. Alfred Kahn est le père de la dérégulation des compagnies aériennes américaines. C'était un grand économiste de l'université de Cornell. Jimmy Carter l'a mis à la tête de l'administration de l'aéronautique civile pour mettre en place le processus de dérégulation pour tout le secteur. S'il y en a un qui comprenait les questions de régulation et de dérégulation, c'est bien Jimmy Carter. Ils ont embauché les meilleurs spécialistes. En gros, nous avons transformé le secteur des compagnies aériennes américaines en une industrie complètement dérégulée. Tout le monde savait qu'il y avait des démantèlements d'entreprises et des banqueroutes dans un premier temps, mais personne n'avait imaginé à quel point il serait difficile de restabiliser le secteur des compagnies aériennes. Les prix ont beaucoup baissé, mais avec le temps, quatre compagnies aériennes se sont mises à dominer le marché. United, Delta et American Airlines, et Southwest, que l'on mettra de côté car ils sont dans une situation un peu particulière. Elles se comportent comme un oligopole. Elles maximisent leurs profits en donnant par exemple un prix au siège selon le temps que le passager devra rester assis dessus avant le décollage. Elles maximisent aussi le nombre de sièges par avion. Le confort des passagers n'est donc plus une priorité. Aujourd'hui, certains proposent de contraindre les compagnies aériennes à laisser plus de place aux passagers dans les avions, à agrandir les toilettes. Mais les Américains restent très opposés à ce genre d'intervention de l'État, car ils pensent que le marché fonctionne mieux s'il se régule seul. Mais avec seulement trois acteurs, ce n'est pas un marché. mais un oligopole. Une des conséquences est que tous les facteurs que vous avez évoqués sont justes, mais c'est très difficile de savoir si la décision que l'on prend est la bonne ou pas à l'instant T. Et une fois que l'on a pris une décision, c'est très difficile d'en changer.
Puis-je poser une dernière question ? Merci. Alors, au vu de votre expérience et de cette analyse, quel conseil donneriez-vous aux responsables politiques européens qui souhaiteraient appliquer ce type de politique en Europe ?
Eh bien, nombre d'universitaires en faveur de politiques antitrust comme moi, et qui ne sont pas des économistes conservateurs de l'école de Chicago, applaudissent les décisions européennes pour combattre les trusts. L'Union européenne essaye de protéger beaucoup plus les petites entreprises. Aux États-Unis, on a un dicton qui dit que les politiques antitrust ne protègent pas les concurrents, mais la compétition. Si on ne protège pas les concurrents, on se retrouve avec une ou deux entreprises qui dominent le marché. L'Union européenne, par le biais de ses décisions antitrust, protège les concurrents afin de protéger l'intégrité de la compétition. Je pense que c'est la bonne approche. L'autre chose que je voulais dire est que cette vague de dérégulation aux États-Unis affecte aussi sa culture. À côté des lois et des décisions des régulateurs, ce en quoi croit le peuple est tout aussi important. Il y a une grande peur du gouvernement fédéral aux États-Unis. Les Américains pensent que la concurrence fonctionne et que le gouvernement ne devrait pas intervenir, car il ne fera qu'empirer les choses. On voit ça depuis Ronald Reagan. C'est le néoconservatisme. C'est vraiment difficile de faire des changements qui aident vraiment un marché donné si ce n'est pas le gouvernement central qui prend cette décision. L'Union européenne doit chercher un juste milieu dans les relations entre l'État et les sphères économiques.
Merci beaucoup pour toutes ces idées, professeur John Drobak. Eh bien, après cette interview du professeur John Drobak, chers amis auditeurs d'Amicus Radio, je vous remercie de votre écoute et j'espère que nous nous retrouverons très bientôt. Au revoir.
Cet épisode des Amphis d'Amicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Blomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Lucien Auriol. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphis d'Amicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.